Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui. Oui. Non.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission aujourd'hui avec trois interviews, dont deux femmes réalisatrices, deux réalisatrices de fiction. On écoutera Dominique Cabrera pour le film Corniche Kennedy, et puis Stéphanie Pilonka pour Fleur de Tonnerre. Et puis, eh bien, la dernière interview, ce sera celle d'Olivier Azam pour un documentaire qui s'appelle La cigale, le corbeau et les poulets. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et toi, de quoi vas-tu nous parler ?
Ben moi, je vais vous emmener du côté de l'Asie, enfin à moitié pour la grosse production américano-chinois, La Grande Muraille, et puis vers un film plus intimiste, japonais, qui s'appelle Harmonium.
Et puis, eh bien, il sera question de beaucoup, elles seront majoritaires, hein, les femmes, dans cette émission, puisque je vous parlerai d'un film que j'ai vraiment adoré, Anna Rose Holmer de Fitz, c'est Cinérama.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et de deux, après Réparer les vivants de Catel qui les verrait, sorti début novembre, voici une nouvelle adaptation d'un roman de Maëlys de Kerangal, Corniche Kennedy. À la réalisation, Dominique Cabrera, la réalisatrice, avait envie de tourner à Marseille et cette histoire l'a intéressée. Celle de jeunes Marseillais des quartiers qui plongent de la Corniche Kennedy à Marseille. Alors, les rochers dominent la mer et c'est l'occasion de plonger à quelques pas des belles villas marseillaises. Ils sont jeunes, certains sont pris dans des trafics, sont pointés du doigt, mais là-bas, sur cette corniche, eh bien, ils sont les rois. Suzanne, de sa terrasse des beaux quartiers, peut les voir, elle devrait réviser le bac, mais elle est attirée par ce monde. Un attrait d'autant plus curieux qu'elle a plutôt le vertige. Elle va parvenir à se faire accepter, à plonger avec eux, amorçant un trio amoureux avec Marco et Mehdi, deux plongeurs aguerris. Alors que le film s'attache à l'apprivoisement des corps, dresse un portrait solaire d'une jeunesse en quête d'une liberté, apparaît également alors une enquête policière. Elle accompagne le récit en nous éloignant de la corniche et apparaît en revanche convenue. Elle concerne Marco, l'un des jeunes qui est témoin d'un meurtre et trempe dans les trafics. Alors on écoute Dominique Cabrera défendre son film Corniche Kennedy.
J'ai envie de sauter de là-haut. Tu me montes ?
Jess, je te montre là. Tu m'embrasses ?
Voilà.
D'abord, c'est un coup de foudre, en fait, hein, c'est pas un raisonnement. Mais le pourquoi, je peux le dire après coup. Pourquoi ? Parce que c'était un film, d'abord, sur le littoral, sur la corniche. On était à Marseille, mais j'étais dans la mer, dans le ciel. Et ça, c'était... J'ai tout de suite vu que c'était merveilleux pour une cinéaste d'avoir cette matière-là, d'avoir des corps de jeunes de 20 ans, des quartiers populaires, dans le bleu, ouvert sur la Méditerranée, ouvert sur la Grèce, sur l'Afrique du Nord, sur l'ailleurs en fait, hein, sur le ciel. Donc ça c'était une première raison et une énorme raison. Ensuite le motif du saut. Le motif du saut il est magnifique parce que c'est à la fois l'extrême vitalité et en même temps le risque de la mort. Il y a une fresque à Paestum qui est magnifique où on voit le petit plongeur qui est là depuis une éternité comme ça, en train de plonger, et c'est une figure à la fois de la vie la plus forte, hein, et en même temps, bah, il peut s'écraser, quoi, hein, du risque de la mort. Et c'est aussi le passage entre la vie et la mort. Peut-être que il va dans les enfers, hein, peut-être qu'il va de l'autre côté. Voilà. Donc il y avait cette figure centrale dans le roman de Maëlys de Kerangal. Il y avait le littoral, hein, la ville et la ville de Marseille, la situation sociale, elle était du coup dans les mots, dans les situations et pas dans le décor. Et ça, comme occasion de mise en scène, c'est quelque chose de magique pour moi. Parce que du coup, je pouvais faire un film extrêmement concret, les corps, le poulpe, l'oursin, la mer, mais en même temps avec quelque chose d'abstrait, puisque j'avais un fond bleu. J'avais pas du décor, vous voyez ? Social. J'avais le social dans les mots, dans les situations, dans les corps, dans les êtres, mais pas dans le décor. Et ça m'a paru quelque chose de magnifique comme occasion de mise en scène.
Suzanne, quand je te vois sauter, j'ai le cœur qui s'arrête.
Et le bac dans tout ça, tu révises comment, quand?
Le son est des plus magnifiques, un matière devient maléfique, dont t'as maléfique, maléfique, c'est de la...
Le bac, Madame Bovary, le Duproy, c'était la vie d'avant, ça.
Dans cet endroit, les jeunes sont les rois de la corniche. Moi, ce qui me plaisait aussi dans le roman de Mélisse de Kerangal, c'était l'exploit.
Jenny, on te laisse passer devant.
Ça va mal se finir tout ça.
Maintenant que vous m'avez coffré, tout le monde va le savoir. Je vais me faire rafaler.
Bah, on a peur tout le temps. C'est ce que me disent les spectateurs. Hein. Mais on a peur, je crois, parce que c'est réellement dangereux d'être là, hein, tout simplement. On est dans un tout petit espace qui est entre la route et le précipice. C'est vraiment dangereux, donc on a peur que quelqu'un tombe. Moi, j'avais peur tout le temps que les jeunes tombent, ou que les membres de l'équipe tombent, ou que moi, je tombe, d'ailleurs. Je pense que cette tension, elle s'est communiquée aux spectateurs, en fait.
Ouais, ouais, ouais. J'ai mal. Je gamberge, au final je vais batailler. Retrouver ma force sur cette belle plage. J'irai plonger pour détourner cette peur du monde. Trop de fois je sers.
Comme c'est une adaptation, il y a une partie qui est policière dans le film. Vous auriez pu peut-être en faire l'économie. Est-ce que vous êtes posé la question?
Bah oui, bien sûr, je me suis posé la question. Mais en fait, mes relations avec les jeunes que j'ai pu rencontrer là-bas, j'ai vu malheureusement que beaucoup d'entre eux avaient soit une expérience personnelle avec le crime organisé, soit à deux ou trois écarts. Enfin, vous voyez, un cousin de cousin, un ami d'ami, un voisin qui est mort ou qui est au baumette. Ou... Donc c'est tellement présent, ça aurait été très bizarre que ça n'existe pas du tout dans ce film.
Ce n'est pas tant la réalisation de Dominique Cabrera, hein, qui prend plaisir à filmer ses corps baignés de soleil et ses plongeons vertigineux, mais l'histoire apparaît trop maigre. Le personnage féminin interprété par Lola Créton, la seule actrice hein, parmi le groupe de jeunes, manque de crédibilité. L'enquête policière, l'émotion que peut avoir le capitaine de police, ou la capitaine de police d'ailleurs, et sa faiblesse à la fin du film, et, hein, tout cela est de trop et déséquilibre le film au lieu de le rythmer. Corniche Kennedy donne à voir, écouter et entendre des jeunes des quartiers marseillais dans un autre environnement. C'est le point central du film et là, c'est une vraie réussite. On peut être attendri par le regard que porte Dominique Cabrera, qui a préparé ses acteurs amateurs à la caméra lors d'ateliers au long cours, mais le scénario apparaît bien trop léger, voire peu crédible pour certaines séquences.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Nous avons parcouru des milliers de kilomètres en quête d'une arme plus puissante que tout ce que nous connaissons.
La Grande Muraille est le seul rempart qui protège le monde.
Sainte Mère de Dieu, que veulent-ils ?
On n'est plus à Marseille, là, hein, Manu.
Non, pas vraiment. Coproduction donc sino-américaine, hein, La Grande Muraille, est-ce qu'on peut appeler un accident industriel ? Alors, ne sachant pas de quoi il en retournait, je suis allé voir le film, pensant vaguement me retrouver devant une épopée historique ronflante déroulant les clichés les plus éculés du genre. Bref, une croûte numérique mettant en valeur à la fois des stars US et glorifiée au passage le gouvernement chinois. Tuak avait su d'ailleurs avec beaucoup de malice détourner la propagande idéologique dans son remarquable La bataille de la montagne du Tigre. Parce qu'en véritable anard, le réalisateur de The Blade sait détourner les codes, s'amuser et livrer un produit contraire aux attentes initiales. Alors on ne peut pas en dire autant de Zhang Yimou, un cinéaste insaisissable, hein, plus sage, mais surprenant à bien des égards. Si on lui doit aussi quelques blockbusters comme Hero ou Le secret des poignards volants, il reste aussi l'auteur de films beaucoup plus confidentiels, à l'instar de Pas un de moins, Épouse et concubine ou Le sorgho rouge. Mais c'est sans doute la première fois qu'on le retrouve derrière un film aussi ouvertement commercial. Mais pourquoi pas après tout? D'ailleurs, l'histoire, hein, elle frappe par sa simplicité, son manque d'enjeu, même d'ampleur, qui permet paradoxalement de prendre un plaisir quasi primaire. Alors évidemment, il est question de la Grande Muraille de Chine, hein, mais on s'en fout un peu, c'est juste un prétexte pour les auteurs de déployer un décor gigantesque et assez impressionnant. Pour faire court, un mercenaire, hein, William Garin, accompagné d'un fidèle compagnon, se retrouve emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille. Des créatures monstrueuses attaquent régulièrement l'édifice, menaçant l'extinction d'un peuple. Alors oubliant ses aspirations personnelles, il rejoint l'armée chinoise pour combattre les démons. Alors le scénario très linéaire rappelle dans les grandes lignes celui d'un autre film qui s'appelait Le 13e guerrier de John McTiernan. Alors Zhang Yimou ne possède pas le sens de la mise en scène de Tiernan, mais demeure un habile faiseur pour le coup, lui qu'on a pu considérer comme un auteur. Là où le film surprend, c'est par son sens de la rapidité, de l'ellipse, de l'absence de pathos et de lyrisme convenu. En une durée ramassée d'1h40, ce qui est aujourd'hui très très rare pour une grosse production, je pense même qu'il y a eu des coupes assez sévères, mais pour une fois, c'est pour ça que j'appelle ça un accident industriel. C'est-à-dire que finalement, d'avoir ramassé le film dans un temps si court est plutôt bénéfique. Hein. Donc Himou, il se démarque de la fresque, on va dire, académique et livre un pur film de monstre, spectaculaire et jouissif, toujours conscient du caractère outré de la situation de départ. Alors rien n'est très sérieux hein, dans ce pur divertissement à l'ancienne, bénéficiant de superbes décors et costumes. Les effets numériques, alors surtout lors des plans d'ensemble, se vautrent dans une laideur visuelle contrastant avec le soin apporté à la direction artistique, mais ce côté un peu cheap, hybride, un peu foireux, n'est pas sans charme. Alors au fond, La Grande Muraille hein, ressemble à une grosse série B démesurée, hein, bénéficiant de quelques magnifiques scènes, dont un combat anthologique dans la brume entre un Matt Damon convaincant et des bestioles plutôt crédibles. Alors pour peu, on se croirait dans Jason et les Argonautes, ce genre de film un peu à l'ancienne, ce qui est, bon, de ma part, le meilleur des compliments. Alors bref, une heureuse surprise, hein. Alors, et heureux hein, toujours, là, ça a été mon grand bonheur de voir une grosse production comme ça, aussi courte. Hein. Parce que quand j'ai 1h40, c'est presque 1h30 avec 15 minutes de générique à la fin. Hein.
Alors tout à l'heure, nous étions à Marseille et nous allons rester dans le sud, mais cette fois-ci dans l'Hérault.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Souvenez-vous, 2009, au sommet de l'État, nous avons Nicolas Sarkozy. Lui et quelques-uns de ses ministres, comme Rachida Dati, Michel Alliot-Marty et Christine Albanel, reçoivent des lettres anonymes contenant parfois des balles. Les enquêteurs débarquent à Saint-Pons-de-Thomières, un petit village de l'Hérault. Les autorités pensent que c'est de là-bas que sont parties les lettres anonymes. Ils désignent un coupable idéal, Pierre Blondeau, militant de gauche, on va dire socialiste libertaire, qui tient le tabac La Cigale. Alors si tout le cercle des amis, des camarades de manifestation et les signataires de pétitions sont soupçonnés, on a aperçoit aussi parmi les coupables eh bien, le dentiste, le notaire ou encore un architecte du village. Mais rien. Il faudra plus de 1000 fonctionnaires mobilisés pendant 6 mois et 150 policiers pour s'apercevoir qu'il n'y a toujours aucune preuve que le coupable habite Saint-Pons-de-Thomières. L'affaire s'achèvera quand un homme habitant à Hérépian, donc à une trentaine de kilomètres, avouera être l'auteur des lettres anonymes. Olivier Hazan, réalisateur notamment de Chomsky et compagnie ou Howard Zinn avec Daniel Mermet, s'est intéressé à cette histoire pour en raconter une autre. Dans La Cigale, le corbeau et les poulets, le réalisateur tente une comédie documentaire, au moins dans la première partie, le moment où il relate l'affaire du corbeau. Cette partie du film aura été tournée en 4 jours et le reste eh bien, en 6 ans. Car Olivier Hazan s'est intéressé à ceux qui ont été désignés corbeaux et surtout à Pierre Blondeau et ses camarades comme celui qu'on appelle le Suisse. Ils s'opposent, ces hommes, aux installations d'éoliennes industrielles. Ils envoient des lettres aux autorités pour dénoncer l'utilisation d'un produit nocif pour l'environnement. Un produit utilisé par des bûcherons, mais aident aussi les plus démunis à rédiger des courriers et s'affichent clairement dans la solidarité et l'engagement politique et citoyen. Ils sont suspects pour la police et de vrais emmerdeurs aux yeux de l'ancien député maire, l'actuel président du conseil départemental de l'Hérault, Kléber Mesquida. Olivier Hazan fait le portrait de ces citoyens d'un petit village qui ont été désignés comme corbeaux parce qu'ils ont l'audace de ne pas se résigner. On écoute le réalisateur et puis Pierre Blondeau, le personnage central de ce documentaire, La Cigale, le Corbeau et les Poulets.
Le Corbeau tient toujours en échec la police. L'auteur des lettres de menaces adressées à des hommes politiques n'a toujours pas été démasqué. Les coups de filet se multiplient, les perquisitions aussi.
J'étais à poil en train de finir de me raser, tu vois, et j'ai la petite fenêtre. Hein. Et là, quand j'ai ouvert la fenêtre, j'ai entendu du bruit de partout. Je me suis vu de type avec les revolvers derrière. Hein.
Je suis originaire de la région. Et donc, en fait, je viens régulièrement ici et je lis la presse locale, comme tout le monde. Je lis le journal du coin. Et en fait, j'avais repéré l'affaire du corbeau dès le début, avant qu'il y ait les problèmes des arrestations. Et ça m'avait intrigué parce que les affaires de corbeaux, c'est très cinématographique. Il y a eu plein de films sur il y a eu le corbeau de Clouseau, etc. Donc, je m'étais déjà intéressé à l'affaire. Et en fait, très vite, on a vu que c'était un peu bizarre quand même cette affaire. Surtout quand il y a eu les arrestations, quand on a vu comment ils ramassaient quasiment tout le village, on s'est dit, il y a un truc qui n'est pas clair, c'est pas normal ça, il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai tout de suite parlé avec des copains journalistes du coin et on était tous assez d'accord pour se dire que c'était bidon cette histoire, quoi. Mais ça a duré quand même un moment puisqu'ils ont tous été arrêtés. Il y a ceux qui ont été perquisitionnés aussi, quasiment quand même une trentaine de personnes dans le village. Donc le boucher, le notaire, le dentiste et des gens qui étaient autour de La Cigale, qui est le bureau de tabac librairie régionaliste, donc, qui est tenu par ce cher monsieur Pierre Blondeau, qui était le principal suspect, donc le suspect numéro un dans l'affaire. Et voilà, et donc on est parti de ce point de départ, c'est-à-dire du point de départ de l'affaire du corbeau. Et quand on est venu avec ma compagne, avec Laure, on est venu régulièrement les voir, on s'est dit, bon, on a envie de tourner une histoire là-dessus, mais on ne va pas forcément rester autour de l'affaire du corbeau, on ne va pas faire une enquête, ce n'est pas une investigation qu'on va faire autour du corbeau. C'était plutôt un portrait de ces gens, pourquoi eux, et à partir de cette question « Pourquoi eux ?», en fait, on est resté 6 ans.
Ce sont des personnes d'extrême-gauche, membres de cercles de rencontres, qui sont interpellés.
Cambadélis, il va être content, celui-là aussi. Il a dit que les socialistes, c'est une bande de couillons. Valls, c'est pour lui dire que c'est pareil, c'est un couillon.
Hop. Je trouve que c'est amusant, la liberté de pouvoir, dans un film, changer de registre, quoi. Je veux pas faire de comparaison, ce serait prétentieux de ma part. J'aime bien chez Hitchcock, par exemple, dans Psychose, que le personnage principal, on la suive sur une fausse piste pendant 40 minutes, et qu'au bout de 40 minutes, elle se fait assassiner dans la douche, et puis on oublie l'affaire. Bon, c'est pas ma référence dans le film, mais ce que je veux dire, c'est que la liberté dans un film de pouvoir changer de registre, ça, je la revendique totalement. Et comme je disais tout à l'heure, le problème après, c'est de durer quand on construit n'importe quel film, c'est de pouvoir durer au-delà du passage fatidique de l'heure. et comment on tient le spectateur, parce que c'est à ça qu'on pense. Hein, notre boulot, c'est ça, c'est de comment on fait pour tenir les gens en haleine et nous-mêmes pour que ça m'intéresse. Moi, je ne veux pas m'ennuyer en regardant mon film. Quoi. Donc après, maintenant, je le connais, je l'ai vu 2000 fois, je m'ennuie. Mais je veux dire, il y a un moment où on essaie de construire les choses comme ça. Et donc, ce qui m'a intéressé, ça, c'est pour parler vraiment de la tambouille, de la cuisine. Quoi. Mais après, ce qui m'a intéressé chez eux, et dans la bande de la Cigale et dans leur action, moi, j'ai été fasciné par leur force de conviction, leur... opiniâtreté exceptionnelle, comme on dit dans le film, c'est-à-dire le fait que ces gens-là résistent depuis des années et ne lâchent jamais l'affaire, ça c'est extraordinaire. Le sens de l'humour, ça c'est quelque chose que je trouve quand même qui est fondamental, qu'il ne faut pas perdre, parce que c'est ce qui fait qu'on a envie d'y être. Et puis la cohérence aussi, à la fois intellectuelle de ces luttes et la liberté aussi, la liberté d'expression qu'il y a dans ce lieu, la liberté de parler avec tout le monde, et ça c'est des choses qui se retrouvent pas tout le temps à gauche, hein, notamment, de pouvoir parler avec tout le monde. C'est-à-dire, c'est des gens, Pierre peut parler avec tout le monde. Donc ça moi je trouve ça exceptionnel, c'est un exemple extraordinaire.
Vous êtes même le seul à vouloir faire une manifestation la semaine prochaine, le 10, hein.
Avec moi.
Bah oui, toi bien sûr.
Avec Chantal.
Oh, on est quatre, c'est bien.
Monsieur Blondeau, vous avez quelque chose à dire?
Front Rouge, vive la République sociale!
Est-ce que c'est vous, le corbeau?
On l'entend dans le documentaire, il n'y a qu'une chose que vous dites à la presse quand vous êtes emmené au commissariat de Montpellier, c'est quoi?
Ah, c'est Front Rouge et vive la sociale. J'ai pas pu continuer parce que j'aurais voulu dire, je le marque dans le bouquin, ça aussi, j'aurais voulu dire « Ah bah la société bourgeoise et tout », mais enfin bon, j'ai pas eu le temps et puis j'étais un peu bousculé, c'est moins qu'on puisse dire, parce qu'ils avaient voulu me mettre une capuche sur la tête, un manteau sur la tête. Alors j'ai dit ça, c'était pas question, parce qu'on était dans un petit local qu'ils avaient dû perquisitionner, ils pensaient pas que les journalistes viendraient.
Un documentaire qui ne sera pas dans toutes les salles, mais si vous le voyez, courez-y.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Remarqué il y a 3 ans pour son film intimiste « Au revoir l'été », Koji Fukada, avec son nouveau film « Harmonium », emprunte une voie résolument plus sombre entre drame familial et thriller atmosphérique. Alors toute la mise en place est remarquable. Le cinéaste fait preuve d'une précision de trait et de fait, distille en 2-3 plans un vrai trouble sans esbrouf ni explication inutile. La précision des cadrages, l'intensité des plans séquences et la très belle photographie font de ce « Harmonium » une œuvre très cohérente, j'allais dire harmonique. Alors dans une banlieue japonaise paisible, hein, Toshio et Akie mènent avec leur une existence sans heurts, mais dès la première scène de repas, presque ironique, Fukada filme déjà les prémices de l'incompréhension qui anime ce couple muré chacun dans leur silence. Et puis un jour, une silhouette étrange apparaît dans l'atelier de Toshio. L'homme, Yasako, est une vieille connaissance de Toshio, qui, à la surprise de Akie, tu suis, parce que là c'est les noms, hein. va lui offrir un emploi et le logis. Alors qui est-il? Que veut-il? Petit à petit, un malaise s'installe, les projets de l'inquiétant personnage se dessinent, il se rapproche de la fille de Toshio, lui apprend à jouer de l'harmonium et séduit sa femme, Akie. Alors il s'immisce insidieusement dans cette douce vie familiale sans que Toshio n'ait l'air de lever le moindre petit doigt, un peu comme s'il était redevable. En effet, un passé trouble unit les deux hommes. Alors la première partie fascine par la justesse des situations, par cette manière de créer l'effroi et l'absurde dans un même espace. Alors sans propos alourdis, Fukada réussit un thriller domestique sur fond d'intrusion d'une densité peu commune. Alors dans ses meilleurs moments, Fukada se rapproche des films de genre de Kiyoshi Kurosawa, sans le versant trop fantastique. Hein. Mais un deuxième acte vient malheureusement alourdir le propos initial. Hein. La mécanique d'un scénario bien ficelé devient très voyante et les nombreuses coïncidences ne font que renforcer son aspect artificiel. Les comportements des personnages obéissent aussi à des schémas manichéens. La mère, qui par un trauma devient extrêmement maniaque, n'est qu'un truc métaphorique parmi tant d'autres. L'évolution psychologique des personnages obéit à un déterminisme social un peu forcé. Alors la mise en scène précise du début cède le pas à une forme de maniérisme gratuit et sa noirceur absolue ne convainc pas tout à fait, comme en témoigne une fin qui d'ailleurs n'en finit plus de finir. Hein. Il met au moins un quart d'heure, 20 minutes à boucler le film et ça peut s'arrêter à tout moment, ce qui est un peu gênant. Alors Fukada enfonce le clou, hein, filme jusqu'au bout le désespoir de ses personnages, mais le versant mélodramatique du film est moins excitant que le thriller inquiétant de la première partie, flirtant parfois avec le fantastique. Alors grâce à l'interprétation habitée de Tadanobu Asano, qu'on avait aperçu dans le magnifique Vers l'autre rive de Kurosawa, où il jouait déjà une sorte de revenant, et bientôt à l'affiche du nouveau Scorsese Silence. Hein, c'est une présence un peu fantomatique hein, dans le film. Hein. Alors sa manière grotesque de marcher, raide comme un piqué, les mains longeant le corps, son visage inexpressif, absent, l'ambiguïté aussi de son discours demeure l'attrait principal d'Harmonium. Mais lorsque le personnage disparaît, hein, le film s'essouffle, se dégonfle comme une baudruche, ne laissant apparaître que les ficelles un peu faciles du scénario et son nihilisme de pacotille. Enfin, voilà, je suis un peu déçu en fait. Hein. Surtout que ça commençait vraiment très très bien.
Alors toi, tu étais donc au Japon, tu as été aussi du côté de la muraille de Chine. Moi, j'étais à Marseille dans l'Hérault. Et bien maintenant, nous allons aller en Bretagne avec la dernière interview de cette émission, celle de Stéphanie Pilonka.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. What else? Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Et nous allons parler de Fleur de Tonnerre qui sort ce 18 janvier. Nous sommes au début du 19e siècle. Vivre en Bretagne n'a rien de facile. La fille de paysan, Hélène Jégado, est contaminée par des idées morbides. Sa mère, plutôt dure, l'appelle Fleur de Tonnerre. Et voilà que durant toute sa vie, eh bien celle qui se fait embaucher comme cuisinière commet l'irréparable avec quelques gouttes d'arsenic dans les plats qu'elle concocte pourtant avec amour. Pour faire vite, Fleur de Tonnerre est accusée d'avoir empoisonné, alors certains disent 97 personnes, dont 60 ont succombé à ses plats viciés, ce qui en ferait la plus grande tueuse en série ayant jamais existé en France. Jean Tollet en a fait une biographie. Alors, il faut savoir que la justice n'a retenu que 37 empoisonnements en 18 ans, la plupart étant prescrits. Dans son premier long-métrage de fiction, Stéphanie Pilonka s'applique à nous montrer le germe de ce mal. Fleur de Tonnerre est conditionnée par un milieu, par une époque aussi, avec ses contes païens et notamment la figure de l'Ankou, présente dans la mythologie bretonne. Il s'agit d'un personnage annonciateur de la mort auquel Hélène Jégado tentera de ressembler. Au travers d'une reconstitution un peu âpre, avec des visées sociales et historiques, nous voilà plongés donc dans la Bretagne du 19e, avec Mélanie François en guise de tueuse maladive. Nous avons pu parler quelques instants avec Stéphanie Pilonka.
Je te l'ai déjà dit, ça tu touches pas, c'est du poison. Allez, avance.
Alors plutôt que de choisir la chronique, en fait, une sorte de chronique judiciaire, vous revenez plutôt dans l'enfance de la meurtrière, c'est ça? Vous, en fait, en lisant le livre de Jean Tollet, vous vous êtes dit, mais finalement, il y a quelque chose à raconter, mais autrement que le sordide des meurtres.
En fait, je me suis dit, en ayant l'occasion de travailler avec des professionnels de la petite enfance et des psychiatres, et aussi des personnes du milieu judiciaire, un juge d'instruction, tous s'accordaient à dire que derrière un criminel, derrière un grand délinquant, il y a encore un enfant qui pleure, un enfant qui a été malmené, souillé, abîmé par la vie et mal aimé. Voilà, moi j'ai voulu rentrer dans la tête de cette tueuse, essayer de comprendre les raisons pour lesquelles elle était tombée si bas et pourquoi elle s'était enfermée dans sa folie.
Le film, finalement, montre que sa méchanceté est jamais infondée. Enfin, c'est un peu la phrase de Platon, nul n'est méchant volontairement.
Je pense que son environnement a été déterminant pour elle. Elle a eu une enfance chaotique, elle a baigné dans toutes ses croyances, ce folklore, cet ésotérisme avec ses forces telluriques, ses légendes à vous faire frissonner. Elle a baigné là-dedans et je crois que l'environnement est endoctrinant dans ces cas-là et déterminant dans la personne que vous allez être. Elle a été mal aimée, avec un manque de soins. Et puis voilà, le désamour mène à la haine. C'est une petite fille qui n'a pas pu devenir une adulte dans la lumière. Voilà, elle a eu le choix des ténèbres parce que tout était joué pour elle, tout était déterminé. Et la résilience, malheureusement, c'est pas pour tout le monde.
Je ne dois rien à personne, sauf peut-être à ma mère qui m'a fait connaître l'encou.
J'ai faim, maman.
Bien fait pour toi, t'avais qu'à rentrer plus tôt.
Sans elle, sans ses peurs qui la rendaient si méchante, je serais peut-être devenue une gentille petite servante.
Je crois que j'ai été choisie. Je dois aller jusqu'au bout maintenant.
J'ai lu une chronique judiciaire de l'époque, hein, faite par Le Figaro, qui existait déjà donc, à l'époque où eh bien, Hélène Jégado a été guillotinée. Et il est question d'une figure affreuse. Et pourtant, vous avez pris Déborah François pour interpréter ce rôle.
Oui, alors en fait, j'ai beaucoup parlé avec des archives nationales ou les gens des musées. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les images d'Épinal, on a besoin de rendre très, très laid les criminels. Parce que comme ça, ils cristallisent toutes vos peurs, toutes vos angoisses. On dit « regardez comme ils sont pas beaux, regardez comme ils sont méchants ». Elle tue, donc elle est laide. Mais je pense que dans la vie, c'est quand même un peu plus subtil. Les gens « mauvais », entre guillemets, ne sont pas forcément affreux, atroces et dégoûtants et repoussants.
Vous n'êtes pas dans un film de genre. Il y a même une vraie reconstitution, finalement, de la Bretagne du début du 19e.
J'ai vraiment voulu travailler dans des lieux préservés. On a arpenté la Bretagne pendant plus de 2 ans pour trouver l'endroit ad hoc, l'endroit idéal, avec quelque chose d'authentique, avec des vraies pierres, avec des rues, des lieux avec des énergies, des âmes, avec des personnalités fortes. Oui, c'était important de travailler avec un écomusée, des historiens pour retranscrire tel que les lieux étaient et tels que les costumes étaient aussi, puisqu'on a fait un gros travail à partir d'aquarelles d'Hippolyte Lalès pour reproduire vraiment cette Bretagne du 19e.
Eh bien, vous allez encore nous régaler, Hélène.
Et le prêtre qu'on entend et qui va savourer le petit plat de la tueuse en série, c'est Miossec qui joue dans ce film, ainsi que Benjamin Biolay. Voilà, c'est un autre chanteur qui joue un veuf devenu l'amant de la tueuse. Fleur de Tonnerre est sur les écrans ce 18 janvier.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
La danse et la boxe sont deux univers cinématographiques. Alors, on va citer vite fait Ragging Bull, Million Dollar Baby pour la boxe, et Les Chaussons Rouges et Black Swan pour la danse. Mais c'est aussi une frontière entre le masculin et le féminin dans une vision, qu'on dirait, hétéronormée. The Fitz de Anna-Rose Holmer nous balade entre ces deux disciplines en suivant Tony, une jeune noire de 11 ans. Avant tout, Tony s'entraîne dans la salle de boxe de son grand frère à grands coups de pompe et de traction, mais regarde avec intérêt les danseuses qui s'entraînent dans le même bâtiment. Les Lyonnes danse le drill, c'est une version physique du hip-hop. Et peu à peu, la jeune Tony va abandonner l'univers de la boxe pour celui de la danse. Le pitch est simple et la mise en scène brillante. Tony est de tous les instants. Alors qu'on pourrait facilement s'ennuyer de voir un échauffement de boxe ou même de danse, la réalisatrice parvient toujours à captiver le spectateur avec une image colorée, un cadre précis, fixe ou au contraire aérien selon les séquences. Auparavant chef opératrice, Anna-Rose Holmer a mis beaucoup de son expérience dans The Fitz. L'autre réussite du film, c'est sa bande-son. Même s'il s'agit de danse urbaine, n'espérez pas entendre de la musique à tout va. Ce sont avant tout des sonorités, des percussions, du son concret comme les 1, 2, 3 de la prof que recherche la réalisatrice. Une manière de coller au changement qui s'opère chez cette adolescente et certaines de ses camarades. Tony va d'abord être une petite lionne solitaire pataude au milieu de ses danseuses aguerries, avant de s'ouvrir petit à petit à certaines de ses camarades, tenter les boucles d'oreilles ou le vernis. Le thème n'est pas nouveau au cinéma, mais rarement il a été abordé avec une forme cinématographique aussi attrayante. La réalisatrice ne nous emmène pas ailleurs que dans l'univers de la danse et de la boxe. Nous ne saurons rien de la chambre de Tony, ni de sa mère, ni de son dossier scolaire, ni si son dossier scolaire est bon, pardon. Le film se débarrasse de toute exposition sociale et de toute explication. Il instaure même une part de fantastique quand les filles sont peu à peu touchées par un malaise convulsif. Tony attend de toucher cette maladie que certaines décrivent comme une extase. Ça n'est pas forcément la métaphore de la puberté, quoique, mais avant tout le signe d'une appropriation, le rite d'un passage, un accomplissement. Du début à la fin du film, Tony aura changé et le spectateur aura été enveloppé dans un univers sensoriel. Voilà un premier film qui a vraiment du sens, avec un vrai parti pris de mise en scène. The Fitz n'est malheureusement pas suffisamment défendu par les salles de cinéma.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est, qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Voilà, c'était une émission bien fournie avec eh bien, trois invités. La semaine prochaine, nous écouterons Ahmed Silla pour le film L'Ascension. Et toi, Manu ?
Eh bien, je verrai Live by Night de Ben Affleck et La Communauté de Thomas Vinterberg.